Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, comment la géopolitique s'immisce dans le plus grand concours de chansons au monde ? L'Eurovision, conçue pour réunir les peuples et être apolitique, se prépare à une édition polémique, car beaucoup dénoncent la décision de laisser participer Israël au concours, alors que la guerre que l'État hébreu mène à Gaza a fait plusieurs dizaines de milliers de morts. Entre appel au boycott, manifestations et risque de débordement en direct à la télévision, cette édition est donc surveillée comme le lait sur le feu par les organisateurs. Pourtant, ce n'est pas la première à être perturbée par l'actualité. Et derrière le kitsch, les costumes colorés et les paillettes, la politique a toujours été bien présente sur scène. On vous explique aujourd'hui pourquoi avec Anne-Françoise Hiver, correspondante du Monde en Suède. Eurovision, derrière les paillettes, un concours politique, un épisode de Diane Jean, réalisation Florentin Baume. Nous sommes le 25 février 2024 et à 3 mois de l'Eurovision, le doute plane sur la participation d'Israël au concours. Depuis plusieurs jours, les organisateurs examinent les dossiers des pays candidats et ils ne sont pas certains de valider celui d'Israël qui souhaite présenter une chanson intitulée « October Rain », traduction « Pluie d'octobre ». En voici un couplet.
Dansant dans l'orage, nous n'avons rien à cacher. Ramène-moi à la maison et laisse le monde derrière toi, et je te promets que ça n'arrivera plus jamais. Je suis toujours mouillée par cette pluie d'octobre, cette pluie d'octobre.
Dans ces paroles, aucune mention directe du Hamas ou des attaques du 7 octobre, mais dans le contexte actuel, difficile de ne pas y penser. Et comme à l'Eurovision, les messages politiques sont interdits, les organisateurs du concours hésitent sur la décision à prendre. Du côté d'Israël, la réaction du ministre de la Culture, Miki Zohar, est cinglante.
L'intention de l'Union européenne de radio-télévision de disqualifier la chanson israélienne pour l'Eurovision est scandaleuse. La chanson d'Israël est une chanson émouvante, qui exprime les sentiments du peuple et du pays d'aujourd'hui, et n'est pas politique.
S'ensuit alors une polémique entre l'UER, l'Union Européenne de Radio-Télévision qui organise le concours, et la chaîne de télévision israélienne qui a sélectionné cette chanson interprétée par l'artiste Eden Golan. Le président israélien, Isaac Herzog, intervient lui-même pour inviter à trouver une solution.
Je pense que c'est essentiel pour Israël de participer à l'Eurovision, et c'est aussi une réponse à tous les haineux qui veulent nous sortir de scène.
Finalement, un compromis sera trouvé, exit la pluie ou toute mention du mois d'octobre, la mélodie est identique mais la chanson s'appelle désormais Hurricane, traduction ouragan. Bonjour Anne-Françoise.
Bonjour.
Alors, Anne-Françoise, on connaît l'Eurovision à la base pour son esthétique résolument pailletée et un peu kitsch, mais on vient de voir à l'instant que le concours peut être en réalité bien plus que de la musique. Déjà, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est à la base que ce concours ?
Oui, alors c'est un concours qui a été créé en 1955 par l'Union européenne de la radio-télévision. Donc la première édition a eu lieu en 1956 à Lugano. Il y avait 7 pays qui ont participé, la France, le Benelux, l'Italie, l'Allemagne de l'Ouest et de la Suisse. Et donc pour replacer un petit peu ce concours dans son contexte, il a été créé 4 ans après la communauté européenne du charbon et de l'acier. Donc c'était après la Seconde Guerre mondiale avec une volonté de rassembler les anciens belligérants de la Seconde Guerre mondiale. Et donc là, de les faire se rencontrer sur une scène. C'est un concours qui a beaucoup évolué depuis, puisqu'aujourd'hui, à Malmö, on aura 37 participants. On a des pays en dehors de l'Union européenne, l'Israël, la Turquie, l'Australie. Et c'est la plus grosse compétition de chansons au monde, puisque l'année dernière, il y avait 200 millions de téléspectateurs. C'est plus que pendant la mi-temps du Super Bowl.
Et à la base, dans les règles de ce concours, Anne-Françoise, il est donc bien précisé que ce n'est pas du tout l'endroit pour faire de la politique, c'est ça ?
Ah oui, tout à fait. C'est dans le règlement, un règlement qui continue d'être appliqué aujourd'hui et qui se dit, alors je vais vous le lire, c'est « Les paroles, discours ou gestes de nature politique ou similaire ne sont pas autorisés pendant le concours. » Donc l'esprit du concours, c'est vraiment de faire de la chanson, c'est du divertissement et de rassembler tous ces pays sur la même scène pendant une semaine avec les deux demi-finales. Et puis la finale.
Donc un concours à la base apolitique, mais on va voir, Anne-Françoise, que ce n'est pas forcément le cas et que malgré cette façade pailletée et cette organisation semble-t-il intransigeante sur le caractère apolitique du concours, on décèle tout de même que les États sont tentés de l'instrumentaliser, ce concours, à leur bénéfice, c'est ça ?
Oui, et ça a été un peu le cas depuis toujours. On s'en rend compte sans doute de plus en plus. Il y a eu un mouvement dans les années 90 avec l'arrivée de très nombreux nouveaux pays, notamment après l'effondrement en fait du bloc soviétique. Et très vite, on voit que ces pays qui sont de nouveau indépendants ont une ambition, c'est de rejoindre l'UER et de participer à la compétition, ce qui peut nous sembler complètement incroyable vu de France où on a un petit peu dénigré le concours. Mais pour ces pays, c'est important d'être sur cette scène, de montrer qu'ils appartiennent à l'Europe, qu'ils appartiennent à l'Occident. Je peux vous donner un exemple, c'est celui de l'Estonie, qui a vécu sous occupation soviétique depuis la Seconde Guerre mondiale, qui devient indépendante en 1991, qui rejoint l'UER en 1993, participe à son premier concours en 1994. Ils sont cinquièmes, ça fait la une des journaux, parce que c'est extrêmement important pour les Estoniens de voir leur chanteur chanter en estonien sur cette scène européenne, être diffusé dans plein de pays européens. Et en 2001, quand il remporte le concours, le président salue la victoire. Donc, c'est 3 ans avant l'accession du pays à l'Union européenne et à l'OTAN. Et donc, le président estonien fait référence à ce moment-là à la révolution chantante. Donc, c'était la dissidence exprimée par la chanson dans les années 90. Il dit « Nous nous sommes libérés de l'URSS par la chanson. Nous chanterons notre chemin vers l'Europe. » Donc, on voit l'importance de ce concours pour ces pays.
Mais avec les exemples que tu donnes là, on est encore loin, Anne-Françoise, de l'affrontement tel qu'on peut le craindre pour cette édition 2024. Alors quand est-ce que cette simple fierté de faire partie de l'Eurovision que tu nous décris laisse la place aussi à un terrain d'affrontement entre États ?
Alors c'est assez difficile de le situer, il y a toujours eu des éléments, on l'a vu à certains moments, entre l'Angleterre, le Royaume-Uni et l'Irlande, pendant les conflits en Irlande du Nord par exemple. Depuis les années 2000, on voit une intensification un peu des messages politiques ou des coups réalisés par certains candidats. Ça s'exprime notamment par le choix des chansons, en 2009 par exemple. Donc on est un an après le conflit qui a opposé la Russie et la Géorgie en Ossétie du Sud. Les Géorgiens, ils présentent une chanson qui s'appelle « We don't want to put in ». Donc, c'est un jeu de mots assez peu subtil sur le président russe qui, évidemment, proteste. Et l'UER demande aux Géorgiens de changer le titre et refuse. Donc, finalement, il ne participe pas au concours. En 2015, on a l'Arménie qui présente une chanson qui s'appelle « Don't deny », qui est donc sur le génocide des Arméniens. Donc, la Turquie réagit et puis elle obtient gain de cause. Donc, cette fois-là, l'Arménie cède et change le titre qui sera « Face the Shadow ». Donc, on voit des tentatives assez régulières de différents pays de pousser. Des fois, ça passe et des fois, ça passe pas en fonction des choix de l'UER.
Donc, si je te suis bien, depuis un moment, la politique fait des incursions par les paroles des chansons qui sont volontairement orientées, avec les circonstances autour de ce concours qui en font autre chose qu'un simple télécrochet. Et tu racontes dans ton article que l'année 2016, elle a été particulièrement tendue à ce propos. Il y a d'abord eu une affaire de drapeau, c'est ça ?
Oui, alors c'était une histoire un peu abracadabrante, puisque l'UER avait conçu une liste, en fait, de tous les signes et les drapeaux et les symboles qui devraient être interdits pendant la compétition qui se déroulait à Stockholm cette année-là, en 2016. Cette liste, elle était secrète, elle a fuité, et donc les Basques, les Écossais notamment, ont découvert que leurs étendards régionaux figuraient sur la même liste que le drapeau de l'État islamique, qui était tous interdits pendant la compétition. Ça a évidemment provoqué un scandale. mondiale, l'UER est revenue en arrière. Il a été décidé de n'autoriser que les drapeaux des pays qui participaient à la compétition, donc les drapeaux nationaux, celui de l'Union européenne et le drapeau arc-en-ciel de la communauté LGBT. Sauf que pendant la compétition, la candidate arménienne a brandi le drapeau de la région séparatiste du Haut-Karabakh, donc qui est une région qui fait l'objet d'un conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Ça a provoqué une nouvelle polémique et l'Arménie a écopé d'une amende pour avoir enfreint le règlement.
Donc voilà pour l'affaire des drapeaux. Et on a aussi, Anne-Françoise, en 2016, une première occurrence de l'affrontement entre Ukraine et Russie, c'est ça ?
Oui, voilà, parce que l'Ukraine a présenté une chanson qui a fait enrager la Russie cette année-là. When strangers are calling, they come to your heart. Donc cette chanson, elle est intitulée 1944. Elle a été chantée par l'artiste Jamala, qui est donc une chanteuse ukrainienne. Et elle raconte la déportation des Tatars de Crimée par l'Union soviétique à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Jamala a expliqué que c'était l'histoire de son arrière-grand-mère. Sauf que en 2016, on est 2 ans après l'annexion de la Crimée par la Russie. Donc le message n'a trompé évidemment personne. La Russie a protesté, a demandé le retrait de la chanson en disant qu'elle était beaucoup trop politique. L'UER a refusé, c'est passé. Donc la chanteuse Jamala s'est produite à Stockholm avec 1944.
Et qu'est-ce qui va se passer le soir de la finale ?
Ben, la compétition a lieu comme prévu. L'Ukraine et la Russie se retrouvent sur scène. La Russie est ultra favorite et à la surprise générale, c'est l'Ukraine qui gagne. Donc évidemment, Moscou proteste en dénonçant un concours politique. Et donc, ce n'est pas fini, puisque l'année suivante, en 2017, c'est Kiev qui organise le concours. Et là, la Russie décide d'envoyer une chanteuse qui a donné un concert en Crimée, donc la Crimée annexée. Kiev refuse qu'elle vienne participer à la compétition. Il y a des pressions qui sont exercées par l'UER. L'Ukraine ne va pas céder. Donc finalement, la Russie va se retirer du concours en protestant, menaçant de ne plus jamais y participer. Sauf que l'année suivante, la Russie est de nouveau là, ce qui montre quand même l'importance de ce concours pour tout un tas de pays, dont la Russie.
Et finalement, Anne-Françoise, cette rivalité russo-ukrainienne, elle se soldera en 2022 par l'exclusion de la Russie après l'invasion de l'Ukraine.
Oui, effectivement, et évidemment, c'est une décision qui a été motivée par l'invasion en Ukraine. L'UER a suspendu la participation de la Russie qui n'a plus été au concours depuis. Et on peut noter que cette année-là, en 2022, c'est l'Ukraine qui a remporté le concours, ce qui a suscité un petit peu de réactions épidermiques de certains fans qui ont trouvé que c'était un vote trop politique. Oui, la chanson méritait d'être dans le top 5, mais peut-être pas de remporter le concours.
Donc si je résume, Anne-Françoise, les pays ne se privent pas de proposer des chansons aux paroles volontairement orientées, des candidats ou des membres du public tentent parfois d'agiter des drapeaux polémiques. Et alors au milieu de tout ça, on a donc l'UER, l'organisateur du concours, qui essaye de dire à tout le monde que non, ce n'est pas un concours politique, c'est ça ?
Oui, voilà, c'est le message qui est envoyé, qui est encore envoyé cette année et qui est de plus en plus difficile à entendre parce que des décisions sont prises. On a parlé de l'exclusion de la Russie, d'autres pays ont pu être exclus, des chansons ont été déboutées, d'autres ont été acceptées. Donc, on a un peu de mal à voir comment les décisions sont prises. Donc, ça suscite pas mal de critiques à l'égard de l'UER. C'est le cas, par exemple, cette année, avec la décision de laisser participer Israël à la compétition, alors qu'il y a une très, très grosse mobilisation, notamment d'artistes qui ont signé des pétitions et qui demandent le boycott d'Israël, et qui dénoncent un double standard. Pourquoi la Russie, qui envahit l'Ukraine, ne pourrait pas participer à la compétition quand Israël, qui est accusé par certaines organisations internationales de crimes de guerre à Gaza, pourra être sur scène.
Alors Anne-Françoise, tu viens de nous expliquer comment la géopolitique s'invite donc au fil des éditions à l'Eurovision. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que même lorsqu'un pays n'a pas spécialement d'enjeux ou de rivalité militaire à défendre, il y a encore un peu en toile de fond quand même de la politique. Parlons par exemple de la France, qui fait partie des Big Five, qui financent majoritairement le concours. On note un regain d'intérêt depuis quelques années, pourquoi ?
Effectivement, on voit un changement en France. Ce changement, il date de 2015, où le concours qui était diffusé sur France 3 va être diffusé sur France 2. Il y a aussi un engagement de la direction de France Télévisions. Il faut dire que les résultats commençaient à devenir sérieusement embarrassants. On n'a pas gagné quand même le concours depuis 1977 avec L'Enfant et l'Oiseau de Marie Myriam. Donc en 2015, changement d'attitude, mais Lisa Angèle, qui chante une chanson sur la Première Guerre mondiale, arrive avant-dernière. Donc ça provoque alors la moquerie en France, mais aussi un peu la consternation, l'embarrassement. On va même avoir Laurent Fabius, qui est ministre des Affaires étrangères à l'époque, qui exprime son mécontentement sur France Inter dans la matinale le lendemain matin.
Nous, c'était un petit peu la télévision avant l'invention de la télévision. Donc, on a des progrès à faire. Et donc, il faut que ceux qui organisent cela aient une espèce d'examen, j'allais dire d'examen de conscience. Comment peut-on avoir un rang plus élevé dans la hiérarchie ?
Et ne pas paraître un gars.
Voilà, vous avez bien résumé les choses.
Et alors, depuis cette intervention remarquée à l'époque de Laurent Fabius, la France a changé de stratégie ?
Oui, alors on voit une mobilisation des services, notamment du Quai d'Orsay, avec des rendez-vous qui sont organisés par France Télévisions, qui demandent un petit peu un soutien du réseau diplomatique de la France à l'étranger. On n'a pas le droit de voter, les Français n'ont pas le droit de voter en France pour les candidats français, mais les Français de l'étranger, eux, ils peuvent. Donc les ambassadeurs, les services diplomatiques dans les différents pays vont commencer à encourager les Français de l'étranger à voter pour le candidat français. Il y a des réceptions qui sont organisées aussi dans les pays hôtes de la compétition par les ambassadeurs français en poste dans ces pays. On a certaines personnalités qui vont se déplacer au concours, ce qui n'avait pas eu lieu avant. Delphine Ernotte, donc la directrice générale de France Télévisions, vient en 2018. Elle en profite pour annoncer que la France va recommencer à participer au concours de l'Eurovision Junior, qu'on a quand même, il faut le noter, on l'a remporté en 2020, 2022 et 2023. Clément Beaune, qui est secrétaire d'État aux Affaires européennes, qui est aussi un très grand fan de l'Eurovision, sera sur place en 2021. Et donc, Stéphane Bern nous a raconté qu'en 2021, justement, il recevait pendant la compétition des SMS du président français Emmanuel Macron, qui était visiblement devant sa télé et qui désespérait de voir la France ne pas monter en haut du tableau et donc lui demandait de faire quelque chose qui, évidemment, n'était pas possible.
Et on en vient peut-être, Anne-Françoise, à l'intérêt principal que peut y voir un État comme la France, parce que, on le disait, gagner, c'est organiser le concours l'année suivante. On le voit d'ailleurs pour les Jeux Olympiques en ce moment. C'est organiser un concours international, c'est une formidable vitrine pour le pays et un instrument de soft power assez puissant.
Tout à fait, ça c'est quelque chose que beaucoup de pays ont compris. Il y a un exemple très marquant qui est celui de l'Azerbaïdjan, donc une dictature qui a organisé le concours en 2012 et qui a dépensé des sommes affolantes pour en mettre plein la vue, en construisant un stade pour organiser le concours, en rénovant toutes les façades des rues sur lesquelles les journalistes étrangers qui étaient de passage auraient pu passer. Bon, ça s'est plus ou moins bien passé parce qu'en fait il y a eu un gros coup de projecteur mis sur les violations des droits de l'homme et beaucoup d'artistes qui ont rencontré des activistes pendant l'Eurovision. On a aussi le cas d'Israël qui, depuis sa première participation au concours dans les années 70, n'a eu de cesse de vouloir envoyer le message, l'image d'une société très progressiste, pro-LGBT. On a la chanteuse Dana International qui a remporté le concours en 1998, qui était la première chanteuse transgenre à se produire sur la scène de l'Eurovision. Vingt ans plus tard, Netta gagne la compétition avec une chanson contre les violences faites aux femmes en plein mouvement MeToo et donc qui permettra à Israël d'organiser l'année suivante la compétition, évidemment à Tel Aviv. Israël choisit de l'organiser dans cette ville aussi pour montrer ce côté très libéral de la société israélienne. Ce qui lui vaudra d'ailleurs d'être critiqué assez régulièrement pour pratiquer le pinkwashing. Napoleon, waiting for Waterloo by ABBA for Sweden. Watch this one. Et n'oublions pas la Suède qui organise cette année la compétition à Malmö, donc pour la 7e fois, qui va sans aucun doute mettre les petits plats dans les grands, vouloir impressionner notamment sur les succès de son industrie musicale. Un succès assez frappant et qui a commencé il y a 50 ans avec la victoire à Brighton en 1974 d'un groupe totalement inconnu à l'époque qui s'appelait ABBA.
Merci Anne-Françoise.
Merci Jean-Guillaume.
Si vous avez aimé cet épisode, je vous encourage à lire l'enquête très fouillée d'Anne-Françoise Hivert sur notre site lemonde.fr. Et je vous rappelle qu'en tant que fidèle auditeur ou auditrice de L'Heure du Monde, vous avez accès à une offre spéciale pour vous abonner au Monde et il suffit de vous rendre sur le site abopodcast.lemonde.fr. L'Heure du Monde, c'est votre podcast quotidien d'actualité à retrouver tous les matins du lundi au vendredi. Merci de votre fidélité et à bientôt.